song that comes from Tanzania.
Bonjour, 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 auditrices et auditeurs de Radio Galère. Eh bien oui, c'est Dominique et Françoise au micro. Ce sont aussi Swann et Jules à la technique là-bas. Et là-bas, derrière la vitre, figurez-vous qu'aujourd'hui, ils sont presque dans le noir. Ils ont décidé qu'ils se faisaient un petit studio technique bien confortable là, donc on les voit en ombre chinoise. C'est très poétique. Et nous, nous sommes là, donc... Avec la lumière, ben oui, puisque nous allons vous lire des textes, il vaut mieux qu'on ait une grande et belle lumière. On voulait en profiter pour faire aussi un grand coucou à Odile dans son EHPAD. Encore un peu fatiguée, Odile, et je crois qu'elle est contente de nous entendre et de nous écouter de temps en temps. Alors un grand coucou aussi à tous ceux qui sont contents de nous entendre. Voilà. Oui, à part ça, c'est l'automne. Zut, 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 les feuilles roussissent, ça c'est beau, les couchers de soleil sont splendides, somptueux même quelquefois, mais manque de chance, ils sont de plus en plus tôt, donc il va se mettre à faire nuit à 6 heures, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça fait quand même un peu bizarre. Bref, on va s'en remettre de ça comme d'un certain nombre de choses. Il y a toujours des tas de trucs intéressants culturellement à Marseille. Notre cher cinéma Gyptis, cinéma de la Friche, rue Loubon, il fait plein de films pour enfants là, pendant les vacances et pendant le week-end. Plein de films d'animation sympas. Et puis, comme d'habitude, des films par ailleurs intéressants au Gyptis, à la Baleine, à l'Alhambra. L'exposition Don Quichotte qui commence au Mucem. On m'a fait remarquer que Don Quichotte, c'était un homme qui choisissait sa liberté. Je ne l'avais jamais trop vu comme ça, mais en tout cas, je pense que l'exposition va être intéressante. Donc voilà, plein de choses bien. Et puis, pendant les balades, bien sûr, arrêt dans les librairies. Arrêt l'autre jour à l'Hydre, vous savez, l'Hydre aux mille têtes. Qui est une de nos librairies favorites, avec Transit, avec d'autres, quoi. Aujourd'hui, j'étais un peu sur Transit et l'Hydre aux mille têtes. Alors, l'Hydre, c'est tout en haut de la rue Saint-Savournin, côté plaine. Publicité gratuite. Juste à côté de l'Hydre, il y a une boulangerie qui s'appelle Merlin. J'ai un copain qui travaille là et ils font du super pain et des super gâteaux. Donc, on peut avoir les nourritures culturelles à l'Hydre et puis les nourritures terrestres chez Merlin. Voilà, fin de la page de pub et nous allons revenir à ce que j'ai trouvé précisément à l'Hydre. J'ai trouvé un petit livre en lisant, en feuilletant, comme d'habitude, quelques pages. J'ai trouvé vraiment bizarrement fichu et je me suis dit que ça serait intéressant, évidemment, d'en lire des passages. Alors, j'ai acheté ce petit livre parce qu'il n'est pas cher, donc ça m'a pas ruiné. Je crois que c'est 10 euros. Attendez, je vous dis ça. Ouais, c'est 10 euros. Bon, alors évidemment, il y a 115 pages. Donc, 115 pages, 10 euros, ça va. On n'est pas débordé, ni sur le plan financier, ni sur le plan intellectuel. Et donc, j'ai commencé à lire ça, à travailler dessus, à regarder ce que j'allais vous lire. Et puis, quand même, j'ai été voir chez Monsieur Google, qui était cet auteur, pour moi, méconnu. Eh bien, figurez-vous que c'est quand même le prix Nobel de littérature 2025. Donc, le hasard fait bien les choses. Laszlo Krasznahorkai, c'est un écrivain hongrois, comme son nom l'indique. Enfin, il pourrait être polonais, mais enfin bon, il est hongrois. Laszlo Krasznahorkai, prix Nobel de littérature 2025. Nous lisons aujourd'hui des extraits de « Petits travaux pour un palais ». Complètement loufoque. Alors, attendez-vous à des phrases un peu... C'est écrit pratiquement 100 points, de la première à la 115e page, avec quand même de temps en temps des virgules, avec de temps en temps des paragraphes imprimés en très très grosses lettres, avec... Alors, c'est traduit du hongrois, hein, j'aurais dû le dire. C'est brillamment traduit du hongrois par... La traductrice qui est depuis le début, la traductrice de Laszlo Krasznahorkai, c'est Joëlle Dufeuilly. Donc bravo Joël Dufeuilly qui a fait là comme précédemment semble-t-il un travail remarquable. Et donc il y a des passages en anglais quand même traduits en bas de page, des passages écrits en très gros, des passages écrits en très petit, des passages écrits en italique. Mais tout cela pratiquement sans arrêt, sans pause, sans point, comme je le disais. Et donc c'est nous qui faisons des coupes comme ça, arbitraires, pour vous lire des choses de temps en temps. Et bah quand même, le sujet principal et central, pourrait-on dire, de « Petits travaux pour un palais », c'est la grande bibliothèque de New York, la grande bibliothèque publique de la ville de New York, ça doit être à la 42e rue, hein, et en plein centre de Manhattan. Et en fait, notre héros, notre anti-héros, pourrait-on dire, du livre, qui s'appelle Herman Melville, eh ben, il est bibliothécaire à la grande bibliothèque publique de New York, de Manhattan. Et ben oui, c'est ça le sujet, c'est qu'il s'appelle Herman Melville comme l'autre, comme l'auteur de Moby Dick. Alors lui, le petit Herman Melville, comme il se baptise lui-même, il n'a pas de E à la fin de Melville, alors que le grand Herman Melville, auteur de Moby Dick et de beaucoup d'autres, il avait un E à la fin de Melville. Et en fait, l'auteur, Laszlo Krasznahorkai, donc, part de cette espèce de similitude de patronyme, enfin de prénom et de patronyme, pour construire une espèce de divagation de ce petit bibliothécaire autour de Herman Melville le Grand, autour des marches à pied de Herman Melville dans Manhattan, autour d'œuvres qu'il a rencontrées au musée d'art moderne PS1, donc c'est pas dans Manhattan, ça doit être dans le Bronx, si ma mémoire est bonne. Donc autour d'un artiste plasticien contemporain, et puis il se met à élucubrer sur justement les voisinages, les correspondances entre le grand Melville et lui, entre Melville et Malcolm Lowry, entre Malcolm Lowry et puis notre artiste plasticien qui s'appelle Woods, etc., etc. Et tout ça, comme je disais tout à l'heure, pratiquement sans une respiration, sans une pause, avec des rapprochements sur... la relation à la terre, la relation au sol et le fait d'être, je ne vais pas faire comme Shakespeare, être ou ne pas être, mais vraiment être ou accent ne pas être, ou bien être où on est vraiment, etc., etc. Autrement dit, savoir là où on est. Et savoir là où on est, c'est une espèce d'obsession pour le petit Herman Melville. Et être là où on est, vivre là où on est, s'intégrer, en particulier en ce qui le concerne, dans Manhattan et même dans un district assez limité de Manhattan finalement. C'est vraiment son obsession première. Et Petits travaux pour un palais, on va découvrir peu à peu que c'est... sa volonté de transformation de la bibliothèque. Le palais, bah oui, le palais, c'est cette espèce d'énorme bâtiment de la bibliothèque publique de New York qui pour lui est déjà quelque chose de remarquable, mais dont il veut faire un véritable palais, en ce sens qu'il veut la fermer au public. Bah oui, une bibliothèque fermée au public, c'est son rêve à lui en tant que bibliothécaire. Finalement, il pense qu'une bibliothèque parfaite, c'est une bibliothèque fermée au public. C'est assez intéressant. Enfin, disons que c'est une approche un peu spéciale du service public, mais c'est une approche comme une autre. Et puis, il remplit des petits carnets de notes. Il écrit. Et il se dit que dans sa bibliothèque idéale, dans son palais idéal, il pourrait, non pas comme le facteur cheval, le reconstruire autour d'une pierre, mais le reconstruire autour de ses petits carnets à lui. il irait subrepticement glisser ses petits carnets dans un des rayonnages de la grande bibliothèque publique. Et à partir de là, bah, il reconstruirait ce palais idéal, cette bibliothèque idéale, qui serait quand même fermée au public. Là, c'était des explications qui valent ce qu'elles valent, mais on va passer à la lecture et vous allez découvrir cette écriture assez spéciale, cette espèce de logorée. C'est Françoise qui va nous lire le début.
Je n'ai rien à voir avec leur fameux écrivain. Et pourtant, on m'a enquiquiné toute ma vie avec ça. Simplement parce qu'on porte le même nom et qu'on a deux ou trois trucs en commun. C'est toujours la même chose. Les gens adorent chercher à créer des liens de parenté. Et ils y arrivent toujours, qu'ils aillent au diable. Quelqu'un s'appelle-t-il Melville ? Et ça y est. Enfin, je n'ai travaillé aux douanes que peu de temps, moi. Je suis bibliothécaire. J'ai même failli leur dire que j'étais un bibliothécaire né. Un bibliothécaire qui rédige des notes. Je suis en connexion permanente avec la Terre. Et je ne ferai l'objet d'aucune étude car je ne me laisse pas et je ne me suis jamais laissé distraire. Voilà ce que je me suis dit. Puisque en dehors de mon travail, je ne vivais, si je peux m'exprimer ainsi, que pour mes notes, sans prétention et sans la moindre intention de les faire publier un jour. Un bibliothécaire a tout de même le droit d'avoir une marotte, non ? Tous les bibliothécaires ont probablement une lubie, et pas seulement les pieds plats, qui sont le lot de la plupart d'entre nous.
Oui, alors il y a aussi tout un tas d'élucubrations, mais que je vous passe sur les pieds plats, parce que bon, ça ne me passionnait pas trop. Mais pour Herman Melville, sans E, donc Herman Melville le Petit, en effet, avoir les pieds plats, c'est une caractéristique des bibliothécaires. Ça reste à prouver, mais c'est comme ça.
À titre personnel, je trouve New York et surtout Manhattan, dont tout le monde raffole, hideux. Ces immeubles démesurés, colossaux, s'élançant vers le ciel, oublions le mot « immeuble ». Et tenons-nous-en à monstres, à golems, bonté divine. Ces golems bordant des rues comparativement minuscules et étroites sont des asiles de fous, oui. J'étais d'avis, et je le suis toujours aujourd'hui, que Manhattan est la concrétisation d'un cauchemar fomenté par un diable d'une malveillance démentielle. Quant au contenu de ce cauchemar créé par le hasard maléfique, il tient en une question. Que se passe-t-il lorsque tout se retrouve entre les mains des promoteurs immobiliers ? Il n'existe pas de communauté plus pourrie dans l'histoire des rebuts de l'humanité que celle des promoteurs immobiliers. J'étais et je reste convaincue qu'ils détruisent tout ce qu'ils touchent et ce qu'ils toucheront, puisque tout leur appartient ou leur appartiendra. Cela s'est constamment passé ainsi et continue de se passer ainsi à Manhattan. Ils n'ont cessé et ne cessent de détruire la ville. Manhattan est un monstre vibrant d'un fétichisme démentiel pour l'argent. Manhattan représente l'empire déprimant, violent, brutal, agressif, fanfaron, mégalomane, avide, prétentieux et tout ce que l'armée des promoteurs immobiliers les plus abjects peut produire, puisque ces gens, et s'il le faut, je le répéterai 100 fois, sont ce qu'il y a de plus abject dans ce monde. Il n'y avait ici, dans ce MoMA PS1, que d'épouvantables adeptes d'épouvantables tendances.
Oui, alors il est là maintenant dans son musée, cette nouvelle branche du MoMA, consacrée aux œuvres très contemporaines, et il nous parle de sa visite.
C'était comme s'il n'y avait qu'un seul os à ronger et que tous devaient le mâchouiller jusqu'à la fin des temps dans cette grande appartenance. Et puis, tout à coup, là, au troisième étage, sorti de nulle part, de ce grand nul, voilà que surgit ce type, cet improbable Lebes. Lebes, vous parlez d'un nom. Ça ne peut pas exister un nom pareil, sauf peut-être dans le Midwest, là où on doit encore feuilleter la Bible et où cela signifie quelque chose comme l'homme de cœur.
Lebes Woods.
Si je me souviens bien, mais je ne me souviens pas bien. Ce qui n'est pas sans importance, sauf que présentement ce n'est pas essentiel ici. Ce qui compte, c'est qu'il est monté au troisième étage et qu'il a démontré que c'était l'art, car l'art, même moi je le sais, n'a rien d'un charme opérant à travers des objets matériels ou spirituels. Merde alors, excusez-moi. L'art ne se manifeste pas dans un objet. Ce n'est pas un phénomène esthétique ni un message. Il n'y a aucun message. L'art est seulement relié à la beauté, sans se confondre avec la beauté, et il ne se réduit pas à un charme. On peut même dire qu'à sa façon, il le refoule. Par conséquent, ce n'est pas dans un livre, dans une sculpture, dans une peinture, dans la danse ou dans la musique qu'il faut le chercher. Quand on parle d'art, il n'est pas du tout question de ça, en fait. Il ne faut pas le chercher, puisqu'on le reconnaît dès qu'il est là. Et ainsi de suite, car en présence de l'art, comment dire, il règne une atmosphère exceptionnelle dans un espace donné, et cela peut être provoqué par un livre, une sculpture, une peinture, une danse, une musique, mais également par un homme. Pour moi, la seule façon de formuler les choses pourrait être la suivante. L'art est un nuage qui procure de l'ombre dans la chaleur, ou un éclair qui brise le ciel à un endroit. Et sous cette ombre, et sous la lueur de cet éclair, le monde n'est tout simplement plus le même qu'avant. Un espace s'ouvre à nous, où ce qui existe devient brusquement très chaud ou très froid. Autrement dit, sous l'influence d'une lointaine forme insaisissable, toutes les composantes d'un espace donné deviennent sans transition autres par rapport à leur environnement.
Bref, donc au troisième étage du PS1, enfin du MoMA PS1, notre Herman Melville le Petit a soudain cette révélation d'une œuvre d'art, celle de Lebeus Woods, qu'il voit face à lui. Et en fait, c'est un dessin d'un immeuble qui s'écroule. Donc on a bien compris que... Il avait en horreur l'architecture new-yorkaise, et évidemment pour lui le dessin d'un immeuble qui s'écroule, c'est une révélation extraordinaire. Et il va continuer à partir de là à nous faire part de ses révélations devant l'œuvre de Lebeus Woods, et il va continuer aussi à nous dire tout ce qu'il pense des villes, des bibliothèques, etc., etc. J'ai ébauché la grande idée selon laquelle, si cela ne tenait qu'à nous, nous chasserions les lecteurs de la bibliothèque comme on chasse les porcs d'une bijouterie. Car les bijouteries sont remplies de porcs et vous devez prendre cela au pied de la lettre. Mais bon, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Le fait est que nous devrions ne laisser entrer personne, ne laisser personne s'approcher des livres. Les livres devraient rester, tel serait notre rêve, à leur place, soigneusement rangés. Et ainsi, nous pourrions créer, pour poursuivre mon rêve, un paradis du savoir que rien ne viendrait troubler, non pas seulement du savoir, mais de tout ce qui s'y rapporte, et dont nous, les bibliothécaires, qui n'en sommes pas les auteurs, serions chargés d'assurer la protection. D'un côté, il y aurait donc les lecteurs, je parle toujours de mon rêve, qui tenteraient chaque jour de pénétrer à l'intérieur de la bibliothèque avec l'intention d'y consulter des ouvrages sur place ou même carrément de les emprunter, mais ne pourrait ni entrer, ni consulter, ni carrément emprunter, puisque de l'autre côté, les bibliothèques seraient fermées, et définitivement. Les livres ne seraient plus dérangés, ils ne seraient plus lus. Ah, Dieu du ciel, ce serait si beau, ne serait-ce que de l'imaginer. Et pour aller dans mon propos, je dois, en ce qui me concerne, revenir en arrière, parce que 3 mois après avoir été embauchée, j'avais eu la sensation que cette bibliothèque m'appartenait. Je dois avouer que je n'ai jamais aimé ni donner ni prêter, par exemple. Lorsqu'on me sollicitait le jour de la collecte de sang, je refusais de donner mon sang. Et quand le voisin toquait à ma porte pour me demander une pincée de sel, il repartait bredouille. Alors, que dire des livres de bibliothèque ? La bibliothèque, pensais-je, m'appartenait au même titre que mon sang et que mon sel. Et voici ce que j'ai ressenti très vite à mon travail, très vite dans les premiers mois. Et ce que je ressens toujours, je ne parviens pas vraiment à m'expliquer comment j'en suis arrivée là et aussi rapidement, mais c'est vrai que dans les premiers mois, j'ai eu le sentiment, comme si je vivais une histoire apocryphe de la Bible, qu'un bibliothécaire n'avait pas vocation à se mettre au service des lecteurs, tel un larbin, en recherchant et en donnant des livres, mais qu'il était un garde, le garde de la bibliothèque qui, posté devant l'entrée, dont la porte était indécelable, puisque même pas secrètement indiquée, ne laisserait plus entrer personne, ne laisserait rien sortir. Les lecteurs ne pourraient plus entrer, les livres ne pourraient plus sortir. Voilà le rêve qui a germé en moi et n'a cessé de grandir et de prendre forme. Et même si beaucoup s'en défendent, c'est le rêve secret de tout bibliothécaire, sachez-le. Les bibliothèques, ai-je finalement écrit vers la fin de mon premier carnet de notes, sont les plus grandes et les plus extraordinaires œuvres d'art existantes. Un point, c'est tout. Les gens devraient donc rester à l'extérieur, au mieux les admirer de loin et se dire « Ah oui, c'est la bibliothèque là-bas. Ah oui, je suis ici, tiens, à l'extérieur de la bibliothèque. Et la bibliothèque idéale, ah oui, elle est là. 53 millions d'ouvrages. » Cela se dresse comme un trésor inaccessible. Et c'est précisément en se tenant à distance de ce trésor qu'elle préserve sa richesse et nous sommes prêts, nous les bibliothécaires, à défendre sa valeur à tout instant. Autrement dit, elle est prête, un point c'est tout, à un moment donné, c'est ce que je me suis mise à écrire et chaque jour j'ai renforcé cette idée qui m'avait semblé évidente. Je ne suis pas sûre que quelqu'un comprenne ce que je dis en dehors de moi. Mais quoi qu'il en soit, j'ai écrit et développé mon idée des jours, des semaines, des mois durant et les choses sont devenues de plus en plus claires. Alors, si je reviens maintenant à Lebeus Woods, oui, vous savez, Woods, c'est très bien ce Woods, un véritable visionnaire. Un artiste visionnaire, perdu au milieu de tous ces poltrons de petits bourgeois assoiffés de succès, de cette armée de travailleurs de l'industrie du divertissement, eh bien Woods, je l'ai trouvé époustouflant. « Regarde !» avais-je dit à ma femme, « ça c'est de l'art !» Et je lui ai montré ce dessin, représentant un truc gigantesque à l'instant précédant sa désintégration. Autrement dit, alors qu'il était encore d'un seul tenant, un immense géant défiant la gravité, un truc colossal qui faisait à la fois songer à une machine infernale et à un insecte monstrueux, merveilleusement effrayant, se dressant au-dessus de l'acheté du port, mais s'élevant en même temps de façon désarticulée, tellement désarticulée, avec à l'extrémité comme un bec recourbé. Non, ça n'évoquait rien, ça ne ressemblait à rien, personne n'avait jamais conçu quelque chose de semblable, pas même un rêve, si ce n'est lui, ce Woods. Et la façon dont le colosse qu'il avait dessiné s'élevait au-dessus d'un espace terrestre, juste avant de fléchir, juste avant de s'écrouler, avec au sommet ce bec, ce bras, se maintenant dans les airs. C'était comme si, avec son incommensurable masse figée au-dessus de l'espace terrestre, il prenait conscience de la peur et de l'effondrement. Comme si quelque chose d'effroyable, en contrebas, l'avait terrorisé, l'avait figé au-dessus d'un espace évoquant un rivage, le rivage d'une mer, d'un océan. Je ne sais pas comment décrire ça, encore moins comment décrire ce que j'ai ressenti, mais c'est brusquement ce que j'ai réalisé, qu'il s'agissait d'un immeuble en train de s'effondrer et que ce Woods, aussi stupéfiant que ce soit, était parvenu à capturer l'ultime fraction de seconde avant sa désintégration, avec sa surface déjà morcelée, mais le bâtiment encore d'un seul tenant. L'instant précis où il plongeait vers le bas. J'ai appris plus tard qu'il avait utilisé en fait une photographie prise dans la baie de San Francisco sur laquelle il avait dessiné plusieurs plans. Un premier plan dévoilant une des rives de la baie et puis d'autres plans montrant le bâtiment en train de se briser en morceaux d'une façon totalement invraisemblable et incompréhensible, comme un château de cartes qui en s'écroulant forme une multitude d'angles totalement chaotiques. Avant de basculer en direction de la rive opposée et de se fracasser dans l'eau. Alors ce n'est plus un immeuble, mais un être vivant. C'est un être en souffrance que nous voyons s'effondrer devant nous, nous qui sommes là, de l'autre côté de la baie, sur l'autre rive de la mer. Peut-être que je me trompe complètement, peut-être que tous les bâtiments sont des êtres en souffrance et que leur souffrance est le fait d'être vivant et que nous ne la voyons pas, nous. Elle ne nous apparaît pas immédiatement. Nous sommes aveugles, particulièrement moi qui n'aime pas les immeubles. Je suis aveugle à ça. Enfin, j'ai interpellé ma femme et je lui ai dit « Regarde, ça c'est de l'art ». Il faut dire que l'architecture ne l'avait jamais passionné, ce petit Melville. Et c'est ce que va nous lire Françoise.
Il faut dire que l'architecture ne m'avait jamais passionné, à vrai dire. Je ne m'intéressais qu'aux idées, aux opinions, aux théories, jamais aux personnes et surtout pas de façon approfondie, à l'exception de Melville. Mais lui, c'était juste à cause du nom. L'homme ne m'intéressait pas, du moins pas au début, parce que par la suite, oui. Et comment ? À cause de la question, comment se fait-il qu'un homme porte le même nom que moi ? Ce à quoi on peut rétorquer non, c'est toi qui portes le même nom que lui. Inutile d'épiloguer là-dessus. Une chose est sûre, c'était plus désagréable pour moi que pour lui, pensais-je au début, puisque moi, un moins que rien, je devais sans cesse me justifier, car je suis un moins que rien. Je ne dis pas cela par fausse modestie, et je ne le répéterai autant de fois qu'il le faudra, je suis un moins que rien, surtout comparé à Melville. En d'autres termes, je ne suis qu'un petit bibliothécaire gris, parfois marron. Je plaisante bien sûr. Souvenez-vous, les costumes. C'est bon, vous me suivez ? Bref, je suis Herman Melville, un bibliothécaire souffrant d'un affaissement de l'arche interne du pied et qui pendant 41 ans a rêvé qu'un jour, il refuserait, ne serait-ce qu'une seule fois, de donner au lecteur le livre que ce dernier réclamait et pourrait ainsi commencer à bâtir ce que lui et tous les autres vrais bibliothécaires, quand bien même ils dissimulaient leurs véritables ambitions, désiraient. Et, de cette façon, jeter des bases pour donner à la bibliothèque son véritable sens, tout du moins, faire un pas dans cette direction, la bonne direction, et j'aurais ainsi pu, me suis-je dit à l'époque, poser ce pas à ses côtés, à côté d'un génie, même si, je l'admets, ce n'était pas grand-chose, voire rien du tout. Cela étant dit, ce Melville, soyons honnêtes, ne m'avait pas fait une grande impression au début.
Alors oui, Melville et Melville, enfin le petit Herman Melville et le grand Herman Melville et le petit Herman Melville qui lui rêve de construire la nouvelle bibliothèque, le palais comme le dit le titre. Eh bien, on va les laisser tous les deux pour quelques minutes et on va écouter une musique qui est aussi un peu élucubrante comme ça, celle d'Eric Satie dans la troisième Gnossienne. Donc merci Swan de nous passer Eric Satie. Oui, c'est un peu désincarné, cette musique de Satie. C'est un peu le petit Melville. Et c'est vrai qu'il n'y a pas exactement les élucubrations de notre Laszlo Krasznahorkai sur également le grand Melville. Mais le grand Melville, on va y venir, puisque on s'était quitté avec Françoise là-dessus. Notre petit Melville nous disait... Bon, soyons honnêtes, Melville, enfin le grand Melville, au début, il ne m'a pas fait grande impression. Alors, voyons un peu cela. Bien entendu, je me souvenais de Moby Dick avec son Call Me Ishmael, tout ça, mais je n'irais pas jusqu'à dire que ça m'avait vraiment touché, non. Et puis, le fait qu'à l'école, ou sur le terrain de sport, ou sur mon lien de travail, on n'ait pas arrêté de me chambrer en me disant « Ouais alors, Herman, t'es venu sans ta baleine aujourd'hui ?» Ça m'agaçait prodigieusement. Bref, ce ne sont pas les livres de Melville que je me suis mis à étudier à peu près à l'époque où je prenais conscience de ma connexion permanente avec la Terre. Ce n'est pas dans Moby Dick, Billy Budd ou Redburn que j'ai cherché la réponse à « Que faire de ce Herman et de ce Melville ?» Mais dans sa biographie, finalement, j'ai trouvé quelque chose qui a piqué ma curiosité. En fait, il y a eu des milliers de choses écrites sur Melville, des milliers de pages. Et je n'ai rien appris sur qui était Melville, qui était vraiment Melville. Ça pose un sérieux problème, non ? Je n'ai eu aucun mal à me procurer toutes les biographies, toutes les études, toutes les monographies sérieuses considérées comme les plus importantes sur Herman Melville. J'ai eu évidemment accès à Parker, à Del Banco, à Leda, à Charleston, à Mumford et ainsi de suite. J'ai appris beaucoup de choses, mais je n'ai pas réussi à savoir qui ni comment il était vraiment. Je suis parvenue à deviner sa taille, plus de 1m80, à quoi ressemblait sa maison à Harrowhead, son appartement dans la 26e rue, enfin à l'intérieur, hein, j'entends, pièce par pièce, mètre par mètre, l'endroit où il aimait s'asseoir quand il fumait sa pipe, quel était son emploi du temps quotidien. Je me suis retrouvée, en lisant tout cela, à l'affût du moindre petit détail de son emploi du temps. Mais finalement, aucune réponse à la question que je me posais vraiment. Qui et comment était-il ? Non, j'accumulais des informations et plus j'accumulais ces informations, moins j'en savais sur l'homme avec qui j'avais la chance ou la malchance d'être liée. Et c'est ça finalement qui a attisé ma curiosité. Comment pourrais-je en rester là ? Rien n'était encore décidé, mais j'avais flairé quelque chose dans le fait que tant de personnes aient essayé et que tout s'est échoué, de mon point de vue, à savoir vraiment qui et comment était Herman Melville. Alors finalement, étaient-ce tous des crétins incompétents, Parker, Del Banco, Leda et les autres ? Ils avaient effectué beaucoup de recherches, ils s'étaient mis à écrire, ils avaient véritablement été scrupuleux dans leur écriture. Mais finalement, si un jour l'occasion m'était donnée de discuter avec eux, je leur dirais bien que, ben non, ils en étaient encore restés à la surface. Je ne savais toujours pas qui et comment était Melville. Dans leurs écrits scrupuleux et méticuleux, Melville n'était pas là. Ils n'ont pas réussi à le capturer. Ils seraient peut-être surpris de m'entendre, tous ces beaux écrivains honnêtes, mais malheureusement, c'est un fait regrettable, du moins pour eux. C'est leur échec qui m'a fait entrevoir une piste à creuser. Leur fiasco, ça a été comme une braise qui m'a enflammée et qui m'a incitée à me pencher sur cette question. Qui et comment était Melville ? Et pendant les années qui ont passé, finalement, j'ai fait comme eux, mais j'ai fait mieux qu'eux. J'ai fait mes propres recherches. Et mes propres recherches, je les ai faites sur le terrain, comme on dit. Le nœud du problème, impossible à desserrer. Mes attentes et mes espoirs qui n'étaient pas comblés, j'essayais de les remplir, oui, en allant sur les pas de Melville. Dans ses propres écrits et surtout sur le terrain. chercher une palette des opinions émises à son sujet, oui, mais surtout le suivre. Melville n'apparaissait pas vraiment dans son cadre de vie, dans ses lieux de résidence, dans son environnement, avec ses enfants, ses bateaux, ses voyages, ses œuvres. Alors moi, j'ai essayé de le suivre, de le faire apparaître là où il déambulait. Je suis parfaitement conscient que mon « qui et comment » n'est pas forcément pertinent, mais je me suis demandé si j'étais capable de le visualiser, parce que comme ça, juste pour moi-même, ça l'aurait vraiment construit, ce « qui et comment ». C'était peut-être sans intérêt, mais vous voyez, en explicitant ma pensée, je pense que ça fonctionne vraiment. Je me suis mis à fouiner, non pas tellement dans les matériaux à ma disposition, mais plutôt dans les adresses à ma disposition. Je me suis dit que j'allais tomber intuitivement sur quelque chose, sur un détail qui me permettrait de régler l'affaire. Et même si le chemin devait être long, même si en dehors des milliers de pages de Parker, Leda, Del Banco, etc., je devais faire des milliers de mètres dans Manhattan, c'est bien ce que j'ai entrepris. À ma grande surprise, je ne voyais pas Melville, rien à faire dans les écrits des compétents. Melville n'était pas là, encore une fois, je dis ça comme ça, naturellement. Mais si je le poursuivais, si je voulais savoir, eh bien Melville, oui, serait là. C'est un peu comme si je l'avais invité à une soirée. En fait, dans les livres que j'avais lus, nous étions tous là à l'attendre. Nous jetions des coups d'œil à nos montres, le temps passait et il n'était nulle part. Nous fronçions les sourcils, nous haussions les épaules, nous consultions nos montres, nous scrutions la porte, mais non. Nous pensions qu'elle allait s'ouvrir et qu'il finirait par entrer, et non. Tout à coup, il est devenu évident que Melville ne viendrait pas. Alors, moi, j'ai cherché où le rencontrer. En sortant de chez lui, il prenait sur Broadway un omnibus tiré par des chevaux qui le conduisait jusqu'à la 13e rue. Et de là, il marchait jusqu'au bureau. L'emploi des guillemets s'impose puisque en vérité, il ne se rendait pas dans un bureau mais dans un genre de baraquement sur les bords de l'Hudson où il passait pratiquement 6 jours sur 7 à traiter de la paperasse au milieu d'un vacarme épouvantable pour un salaire de 4 dollars par jour. Ce que décrit là, bien sûr, Laszlo Krasznahorkai, c'est le travail du grand Herman Melville aux douanes. Et donc, le petit Herman Melville reconstitue le cheminement et le travail du grand Herman Melville quand il va travailler au bureau des douanes. Ce baraquement en guise de bureau, qui se trouvait à peu près à la hauteur de l'actuelle Bethune Street, comme je l'ai découvert, et tout le quartier des douanes, à l'époque, longeait l'Hudson jusqu'à l'actuel embarcadère du South Ferry et jusqu'à l'embouchure de l'East River. Donc il y avait une espèce de serpentin chaotique que Melville lui-même décrit à plusieurs reprises, par exemple au début de Moby Dick. Et en fait, c'est cela qui constitue Herman Melville. C'est cela qui le constitue plus que la force magique de l'eau, de la mer. Nous voyons passer sur l'eau les bateaux à voile, les bateaux à vapeur, les barques. Nous voyons défiler sur les quais des dockers, des marins, des charretiers, des flâneurs, des pickpockets, des chiens, des chats, des rats. Et puis oui, même s'il ne les cite pas, des inspecteurs des douanes. Et c'est là qu'il est, c'est là qu'il se situe, Melville. C'est ce que ça indique. Lorsqu'on lui demande ce qu'il faisait dans la vie, il était inspecteur des douanes. Et c'est ce qu'il a dit pendant 20 ans pour 4 dollars par jour. Quand j'ai étudié son itinéraire, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Un beau jour, je suis sortie de la bibliothèque par la porte arrière donnant sur la 46e rue. Je suis allée vers Grand Central, j'ai pris la ligne 6 du métro jusqu'à la 28e rue. Et puis vraiment, je me suis rendue à pied de la maison de Melville, où j'étais là, comme si j'étais rentrée chez moi. Comme si j'étais sortie de chez moi. Et en me rendant de la maison de Melville à son bureau, j'ai retrouvé ce point zéro. C'était le point zéro, le commencement, l'alpha de cette longue histoire, le point de départ de ma propre marche, de nos marches. Puisque ensuite, non pas 6 jours sur 7 comme lui, mais tout de même au moins une fois par semaine, Je suis partie de ce point alpha pour me rendre vers Broadway, vers les quais, et non en omnibus tiré par les chevaux comme lui, mais à pied. J'ai parcouru tout le chemin jusqu'à la 13e rue. Et ouais, une sacrée trotte, même pour un manhattanien. Et là, pendant un moment, j'ai été Melville. Plusieurs jours, plusieurs fois, plusieurs semaines, j'étais Melville.
En chemin, je trouvais toujours quelque chose d'intéressant, ou disons-le, pour être tout à fait exact, qui détournait mon attention et l'entraînait quelque part sans pour autant faire dévier mes pensées de Melville. Non, bien au contraire, mes réflexions sur Melville occupaient toutes mes pensées et m'empêchaient de remarquer où je me trouvais. Si bien que chaque semaine, lorsque j'effectuais la marche de Melville, comme je l'appelais, c'était à cause de Melville que systématiquement je perdais mon chemin aux abords de l'Hudson, ne sachant pas, du moins pendant un certain temps, où pouvait se situer le baraquement dans lequel il tamponnait ses papiers. Et tandis que je marchais, de nouvelles pensées reliées à Melville me traversaient l'esprit, mais très souvent, elles se mêlaient à d'autres pensées qui, elles, concertaient Laurie, car un jour, en progressant dans cette étrange histoire, sur les traces de Melville, je me suis soudain souvenu que lui aussi, cet ivrogne de Malcolm Laurie, avait traîné par ici, dans Lunar Caustic. J'en étais sûre, et c'est ainsi que Laurie s'est invité dans le tableau. Car à travers toutes mes lectures, je n'avais jamais rencontré un tel engouement pour Melville que chez lui. J'ai donc jeté un œil sur ce qui avait trait à Laurie, à la bibliothèque. Mais à ma grande surprise, je n'ai pas trouvé grand-chose. Que ce soit dans le Day, dans le Bowker, le manuscrit de Jean Gabriel, sa correspondance et tous les textes que j'ai pu feuilleter, dans un état d'excitation extrême, parce que, inutile de le nier, j'étais très excitée en parvenant au moment, ou plutôt à l'endroit, où, en plus de Lebeus Woods, je pouvais rattacher cet anglais à Melville. J'étais alors quasiment convaincue que ces parallèles n'étaient pas totalement fortuits, ou du moins dénués de sens. Peut-être vaudrait-il mieux parler de similitude ou de concordance, pour ne pas dire carrément lien de parenté, ce que, comme tout le monde, je suis moi aussi inclin à évoquer, du moins l'aurais-je été si je n'avais pas su garder toute ma tête, mais je l'ai gardée, même si, et maintenant voici qu'arrive un « même si » d'une part, d'autre part, même si, d'une part, la découverte a posteriori de l'existence d'un lien de parenté ne signifie pas que je n'ai pas toute ma tête, et même si, d'autre part, je ne suis pas certain que toute cette tête sera encore avec moi demain. Aucune idée. Au stade où j'en suis, on ne sait jamais ce qui peut se produire. D'autant qu'en réalité, je m'en fiche un peu. Puisque franchement, qu'ai-je à perdre si elle n'est plus là? Je veux parler de la tête. La seule chose que j'ai perdue à cause de l'intérêt démesuré que je portais à Melville, c'est ma femme. Je n'avais rien d'autre à perdre. Mes rapports avec mes collègues étaient restés purement professionnels. Du moins, entre la porte d'entrée et la porte de sortie de la bibliothèque. Bref, ma femme était la seule avec qui j'entretenais encore une relation d'ordre privé, même après mon immersion dans mes recherches sur Melville, puisqu'au travail, de façon fort compréhensible, je faisais tout pour cacher à mes collègues, entre la porte d'entrée et la porte de sortie, la manière dont avait évolué ce qui, à l'origine, n'était qu'un simple objet de curiosité. Ma femme a donc tenu le coup un moment, et puis elle a craqué, elle aussi. Sans doute avait-elle dû mal supporter un homme avec qui elle ne pouvait pas sortir de son jumpsuit noir et vivre à fond l'événement. Comme elle disait, pas une seule exposition, pas un seul opéra au Metropolitan, pas même une petite réception sur l'Upper East Side. Rien, rien avec moi, tellement j'étais un type impossible et je ne pouvais lui opposer aucun argument. Puisque je n'avais, et je n'ai toujours pas, une haute opinion de moi-même. Bref, où en étais-je? Ça y est, j'ai encore oublié ce que je voulais dire. Ah oui, j'avais la conviction que si ces trois fils conducteurs semblaient à ce point s'entremêler, cela ne pouvait pas être une coïncidence, même si, à ce moment-là, j'étais loin d'imaginer qu'à la fin, il ne serait plus question de Melville, ni de Woods, ni de ce monstrueux, quoique irrépressible anglais, ce poivreau qui empestait autant l'apitoiement sur lui-même que le mescal ou la tequila, et qui, entre nous soit dit, a réellement torturé à mort ses femmes, oui, à mort, puisque tandis qu'il œuvrait à sa propre destruction, il prenait un malin plaisir à les torturer par pur égoïsme et tout en détruisant, brisant, anéantissant, assassinant de façon systématique et provocatrice celui qu'il aurait pu être. Il voulait être aimé et cajolé comme un enfant. Ce qui n'est pas mon cas, voyez-vous.
Oui, parce que là, tout ça, c'était Malcolm Lowry quand même.
Moi, à ma façon, j'ai tout fait pour ma femme, oui, mais mon caractère et ma soudaine passion et les recherches obsessionnelles qui s'en sont suivies n'étaient guère plaisantes pour une épouse et de fait n'ont guère plus à la mienne. Peut-être que si j'avais accordé plus d'importance aux jumpsuits en soie noire, si j'avais jeté sur eux un regard admiratif, mais je ne leur ai accordé aucune importance, je ne les ai même pas remarqués. Et surtout, je n'ai pas eu un seul mot aimable à leur endroit, trop occupé que j'étais par Melville, ou, auparavant, par un autre sujet qui avait brusquement envahi mon esprit. Mais bon, c'est comme ça. Elle n'est plus là, et cela n'a plus vraiment d'importance, puisque les choses auxquelles je suis confrontée aujourd'hui sont nettement plus sérieuses.
Oui, donc là, on était en plein dans les divagations sur Melville, Lowry, Woods, etc. Et notre cher Herman Melville sans œil, petit Herman Melville, revient quand même ensuite à ce qui était le sujet principal, la bibliothèque idéale. Et là, comme vous l'avez donc certainement deviné, eh bien, finalement, après avoir parlé de tout ça, je vais vous dire, c'est le garde du palais qui parle. Le garde du palais qui parle ici, car tout converge vers la bibliothèque éternellement fermée, vers le premier véritable bloc. Sur cette île complètement saccagée de Manhattan, le seul palais, le seul que je serais encore capable d'aimer dans cette ville, je dirais même adorer à Manhattan, ce bloc ultime, sans porte, sans fenêtre, qui renfermerait, au sens le plus strict du terme, la première vraie bibliothèque vers laquelle je ferais un tout petit pas en y déposant mes carnets de notes que j'ai écrits et que je continue d'écrire. Un tout petit pas, rien de plus, mais un très grand pas pour moi, me suis-je dit, lorsqu'il m'est apparu évident que j'allais poursuivre mes notes et qu'elles constitueraient les premiers écrits expressément destinés à une bibliothèque qui ne serait jamais ouverte et dont les ouvrages ne seraient jamais lus. Même si ce n'est qu'une piètre contribution personnelle, je vais tout de même continuer d'écrire. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire, mais pour ma part, le sujet est clos. Et je peux revenir, après tous ces détours et tours, à l'après-midi où j'ai entrepris ma première marche de Melville. Vous savez, cette marche, depuis le 104 de la 26e rue jusqu'à Broadway, et quand après j'ai pris la 13e rue pour descendre vers le fleuve, le tout à pied, autrement dit, pas tout à fait comme le grand Melville qui se déplaçait en partie en omnibus, mais avec mes chaussures de marche préférées garnies de semelles orthopédiques pour pieds plats. Comme le petit Melville que je suis, le petit bibliothécaire à pieds plats. Alors je reprends ma marche. Je reprends ma marche dans Manhattan, je reprends ma marche derrière Malcolm Lowry, mais surtout derrière Herman Melville et en compagnie de Woods. Selon mes hypothèses, ce Woods appartenait à cette catégorie de personnes. Une catégorie de personnes qui accorde beaucoup d'intérêt à Manhattan, qui vient là, qui déambule là où il vit, là où il travaille, dans Downtown, avec mes propres hypothèses, qui sont exactes ou ne le sont pas, mais Woods, comme Melville, il va d'un point A à un point B, de son appartement à Copper Union, de Copper Union à la 3e avenue. Et oui, il va aussi dans le New Jersey, juste de l'autre côté, acheter des carnets, puisqu'il a lui aussi ses carnets de dessin, comme moi j'ai mes carnets de notes. Alors il revient de Tribeca à Copper Union, à Battery Park, au Financial District. Il va de temps en temps dans un bar. Il est un peu sans but, mais il prend aussi des itinéraires fixes, comme Melville dans Battery Park, dans le Financial District. Marchant, marchant, tandis que plein de choses défilent à l'intérieur de lui-même, de sa tête, comme Melville. dans sa tête, dans son cœur. C'est ainsi que Melville ou Woods, ils sortent de chez lui et ils déambulent dans la ville. Woods, il sait la plupart du temps avec précision là où il se rend, comme Melville, et il prend toutes les destinations possibles, en dehors d'expéditions occasionnelles aux marchands de fournitures artistiques. Et il fait des expéditions parce qu'il est dans la ville, il veut saisir la ville, un petit peu comme Melville vivait la ville. Il est autour d'où il réside, il fréquente des bars et il cherche le bar le plus approprié. Le bar qui, de son point de vue, est son centre de vie de 3h à 5h chaque après-midi, avec le même intérêt parce qu'à cette heure-là, il y est quasiment seul. Vous savez, de 3h à 5h, les bars sont quasiment déserts. Il y règne un calme relatif, la musique est moins forte. Bref, il s'installait, Woods, il s'installait dans tel ou tel bar. Il commençait par commander une vodka. Il sortait de la poche droite de son blouson son carnet de notes. Il allumait une Dunhill, sa marque de cigarette préférée, et un stylo à la main. Il se mettait en route, sans aucun mouvement, hormis celui de lever son verre de temps à autre, de baisser son crayon de temps à autre. Il sillonnait les rues de Manhattan en réfléchissant. Ses pensées parcouraient les structures, les tensions, les champs de force, les surfaces planes reliées les unes aux autres, alternant avec les mouvements ondulatoires de la mer. Il identifiait instantanément ce sur quoi il marchait lorsqu'il arpentait les rues de Manhattan, lorsqu'il traversait Broadway, lorsqu'il descendait les quais, lorsqu'il prenait parfois le ferry de Staten Island. Eh oui, pour aller voir le sommet de l'île de Manhattan de loin, pour voir les immeubles s'agiter sur l'île, sur le rocher. Absolument comme il croisait en chemin, comme il longeait les chemins empruntés par Melville ou par Laurie. Et donc, dans un certain temps, moi aussi, j'ai fait la même marche, leur marche. Je me suis mis à emprunter ces chemins avec la certitude de suivre les traces de Melville, de Laurie ou de Woods. Et aujourd'hui, je peux affirmer que j'étais convaincue que la route de Melville, que j'avais établie pour moi-même, était bien celle sur laquelle il devenait Melville. Il était Melville. Qui et comment ? Oui, c'était ça. C'était là qu'il était passé, lui et les deux autres génies. Je me suis attelée à la tâche de les suivre, de suivre leurs pas, de refaire leur marche, au moins une fois par semaine. Et je rendais hommage à Melville, comme lui avait rendu hommage Laurie, et comme j'adorais Woods aussi. Alors c'est bien cela, en attirant notre attention, toute l'attention de toute personne sensible à son rapport à l'universel et à son rapport à Manhattan, c'est ce qu'ont fait Melville ou Woods, c'est attirer l'importance du regard sur là où nous sommes. Je ne suis pas sûre que ça soit suffisamment clair, mais nous sommes à Manhattan, et Manhattan s'étend sur un rocher. Et ce rocher est un géant qui, par sa taille, sa masse, son poids, exprime la plus nette interconnexion entre nous et les forces monumentales de la nature. Et dans la situation actuelle, oui, l'architecture qui s'est développée dans les métropoles modernes et à Manhattan occulte notre sempiternel rapport à la question « là où nous sommes ». Ils occultent l'interconnexion la plus vitale pour nous, la seule qui soit vitale pour nous. Et lorsque cette interconnexion est occultée, nous ne savons plus là où nous sommes. C'est pour ça que je n'avais pas retrouvé mon Melville et que là, cette fois, je l'ai bien débusqué. Là où nous sommes. Nous vivons dans un espace factice, mais nous pouvons le retrouver, le véritable espace de Manhattan, tout comme dans les autres métropoles. Finalement, la responsabilité en incombe en premier lieu à l'architecture, mais la responsabilité inverse à l'habitant. L'habitant qui révèle les structures véritables de la Terre grâce aussi à l'art ou à la science ou à la pensée, contrairement à la faute de l'architecture. Melville est en connexion permanente avec l'univers. C'est ce qu'il faut comprendre et c'est ce que j'ai compris, moi. Ayant échoué à trouver la personne de Melville dans toutes les études que j'avais lues le concernant, et même ses œuvres de Bobby Dick à Clarel, finalement, je l'ai retrouvé, lui, au-delà de la littérature le concernant, lorsque je me suis mis littéralement à marcher dans ses pas, et que cette marche m'a fait brusquement comprendre qu'il avait refusé de s'intéresser à autre chose que ce que nous appelons l'universel. C'est en me connectant à l'universel que je me suis connectée à Melville et que je l'ai retrouvé. Pourquoi donc irais-je maintenant m'occuper d'autre chose ? Il suffit de suivre Melville. Ce Melville qui m'intéressait, c'était celui qui était devenu inspecteur des douanes au Customs Office en 1896. Et j'avais le sentiment que c'est là que s'était véritablement nouée sa vie. Ça avait constitué un tournant majeur dans sa vie. Moby Dick était déjà loin derrière lui. Son relatif échec avait été distendu. Et là, c'était mon point de vue. J'avais retrouvé Malcolm. J'avais retrouvé Moby Dick. J'avais retrouvé Herman Melville. Comme ailleurs, on pourrait retrouver l'Iliade ou la Divine Comédie. Alors, c'est bien ce qui va nous permettre de nous quitter maintenant dans la bibliothèque idéale, c'est-à-dire le petit palais ou le grand palais de Laszlo Krasznahorkai. Eh bien, nous nous retrouverons dans quelques semaines parce qu'on va vous laisser avec des rediffusions en attendant. En tout cas, connectons-nous, oui, avec les grands écrivains de notre temps et connectons-nous avec l'univers grâce à la littérature. Et puis, continuons le combat. À bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania.